Fréquence Paris pluriel, 106.3. En 2021, la commune de Paris a 150 ans. Fréquence Paris pluriel fête cet anniversaire avec plusieurs programmations spéciales. Nous continuons ce cycle d'émissions, qui sont diffusées tous les samedis à 14h, jusqu'au 6 mars. Nous reprenons les récits de Louise Michel et Prosper Olivier Lissagueret, lus par Ariane Ascaride. Nous sommes le 26 mars 1871, juste après la proclamation de la Commune, alors que les résultats des élections sont tout juste connus.
Paris veut être libre.
Dans la vieille cité française,
un mouvement insurrectionnel éclate.
La Commune est réclamée.
Vive la Commune!
Examinons de bonne foi quel est cet état social. L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux l'étreignent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuisent dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité, sinon à ceux qui nous gouvernent? Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la Commune.
Aux armes.
La place vibrait encore, quand une soixantaine des élus de Paris se rencontrèrent à l'hôtel de ville. Le scrutin avait donné 16 maires ou adjoints libéraux et 72 révolutionnaires de tout bois. D'impulsion, les quartiers riches avaient souvent réélu les anciens maires, les quartiers populaires, plusieurs vétérans de la République ou des personnalités des réunions publiques. Parmi les élus, un tiers d'ouvriers, dont la moitié militants de l'International, et plusieurs membres du comité central de la garde nationale. Le lendemain, on décida que le bureau serait composé d'un président et de deux assesseurs, de deux secrétaires et renouvelé chaque semaine. Le Français fut élu président. Avant de lui céder la place, le père Bellay, d'une voix forte, salua la Commune et définit très heureusement la jeune révolution. L'affranchissement de la Commune de Paris, c'est l'affranchissement de toutes les communes de la République. Vous avez marché et on peut compter que la République marchera avec vous. Paix et travail, voilà notre avenir. Voilà la certitude de notre revanche et de la régénération sociale. L'Assemblée se partagea en commissions chargées de différents services. Commission militaire, des finances, de la justice, de la sûreté générale, du travail et de l'échange, des subsistances, des relations extérieures, des services publics, de l'enseignement. Une commission exécutive permanente fut nommée pour un mois et composée de Le Français, Duval, Félix Piat, Bergeret, Tridon, Eudes et Vaillant. Le premier souci de la Commune est de garantir la pérennité des libertés communales et de soulager les Parisiens les plus pauvres, mis à rude épreuve par 5 mois de siège. La conscription est abolie. La garde nationale devient la seule force militaire autorisée à se maintenir dans Paris et tous les citoyens valides sont appelés à la rejoindre. Une remise générale des quittances de loyer pour toute la durée du siège et jusqu'en juillet 1871 est proclamée. Versailles, qui n'avait fait qu'en reporter le paiement, livrait ainsi les maigres ressources encore disponibles aux propriétaires qui n'avaient presque pas souffert du siège. Certains d'entre eux avaient même poursuivi une activité lucrative sous le siège prussien. La Commune suspend aussi la vente des objets cédés au Mont de Piété, véritable institution d'usure légale où les familles les plus pauvres venaient échanger des objets souvent de première nécessité, vêtements, meubles, couvertures, contre des sommes dérisoires. Les riches, les hommes de l'ordre, deux fois étrillée place Vendôme et au scrutin, continuaient de s'enfuir à Versailles qu'ils alimentaient de colères nouvelles. La ville réactionnaire avait pris une physionomie de bataille. Tout annonçait la lutte prochaine. Déjà Thiers avait coupé Paris de la France. La veille des échéances d'avril, le directeur des postes, Rampon, fuyait après avoir désorganisé les services. Versailles supprimait les arrivages de wagons-postes et retenait les correspondances à destination de Paris. Le 1er avril, Thiers annonça officiellement la guerre. L'Assemblée siège à Versailles, où achève de s'organiser une des plus belles armées que la France ait possédée. Les bons citoyens peuvent donc se rassurer et espérer la fin d'une lutte qui aura été douloureuse mais courte. Ce jour même, un dimanche, à 1h, sans avertissement, sans sommation, les Versaillais ouvrent le feu, jettent des obus dans Paris.
Depuis 2 jours, des mouvements s'étant produits du côté de Rueil, Nanterre, Courbevoie, Puteaux, le gouvernement n'a pas voulu laisser ces tentatives impunies et il a ordonné de les réprimer sur le champ.
2 avril. Depuis quelques jours, la cavalerie versaillaise échangeait des coups de feu avec les avant-postes parisiens de Châtillon et de Puteaux. Les fédérés occupaient Courbevoie, qui commande le débouché sur Versailles. Et l'Assemblée s'en inquiétait beaucoup. Le 2 avril, à 11h du matin, 3 brigades versaillaises se rejoignent au rond-point des Bergères. À midi, les Versaillais, ayant canonné la caserne de Courbevoie et la barricade, tentaient l'assaut. Au premier coup de feu des fédérés, ils détalèrent, abandonnant sur la route camions et officiers. Pendant ce temps, le 113e de ligne contournait Courbevoie par la droite et l'infanterie de marine prenait à gauche par Puteaux. Trop inférieurs en nombre, redoutant d'être coupés de Paris, les fédérés évacuèrent Courbevoie et, poursuivis par les obus, se replièrent sur l'avenue de Neuilly, laissant 12 morts et quelques prisonniers. Les gendarmes en prirent 5 et les fusillèrent au pied du Mont Valérien. Cette expédition faite, l'armée regagna ses cantonnements. Au bruit du canon, Paris s'arrêta. Personne ne croyait à une attaque. Tant l'on vivait depuis le 28 mars dans une atmosphère de confiance. C'était une salve d'anniversaire, sans doute, tout au plus un malentendu. Quand les nouvelles, les voitures d'ambulance arrivèrent, quand ce mot courut, le siège recommence, une même explosion vint de tous les quartiers.
Aux barricades.
Les barricades se relevèrent, on traîne des canons sur les remparts. À 3h, 50 000 hommes crient « À Versailles !» Les femmes veulent marcher en avant.
Oh, d'hésitation.
La commission exécutive se réunit et afficha une proclamation. Les conspirateurs royalistes ont attaqué. Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué. Notre devoir est de défendre la grande cité de coupables agressions. Duval, qui a le commandement militaire de la préfecture de police, Bergeret de la place et Eudes, délégué de la guerre, se prononcent énergiquement pour l'attaque. L'élan, disent-ils, est irrésistible, unique. Que peut Versailles contre 100 000 hommes ? Il faut sortir. Malgré la majorité de la commission, les généraux partirent. Ils n'avaient pas reçu de défense formelle. Les bataillons de la rive droite devaient se concentrer place Vendôme et place Wagram, ceux de la rive gauche, place d'Italie et au champ de Mars. Ces mouvements, sans officier d'état-major pour les guider, s'exécutèrent très mal. Beaucoup d'hommes, promenés plusieurs heures de place en place, se fatiguèrent. Leur plan était de faire une forte démonstration à Rueil pendant que 2 colonnes fileraient sur Versailles par Meudon et le plateau de Châtillon. Bergeret, assisté de Flourens, devait opérer à droite, Eudes et Duval au centre et à gauche. Idée simple et d'exécution facile avec des officiers expérimentés et des têtes de colonne solides. Mais beaucoup de bataillons étaient sans chef depuis le 18 mars. Les gardes nationaux sans cadre, enfin les généraux improvisés qui assumaient la responsabilité de conduire 40 000 hommes, n'avaient aucune connaissance militaire ni jamais mené un bataillon.
Citoyennes, femmes de toutes les classes, allons à Versailles. Allons dire à Versailles que Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que Paris s'est mise en état de défense parce qu'on l'a calomnié, parce qu'on l'a trompé et parce qu'on a voulu le désarmer par surprise.
Le 3 avril, à 3h du matin, la colonne Bergeret, forte d'environ 6 000 hommes et 8 bouches à feu seulement est concentré au pont de Neuilly. Au petit jour, on s'engage sur la route de Rueil. Les bataillons marchent par sections, en ligne, au milieu de la route, sans éclaireur, et gravissent gaiement le plateau des Bergères quand un obus tombe dans les rangs. Puis un second, le Mont Valérien a tiré. Toute la garde nationale croyait que la commune occupait le fort. Les gardes, surpris dans leur confiance, se croient trahis et s'enfuient dans toutes les directions. La plus grande partie des fédérés s'éparpille dans les champs et regagne Paris. Le 91e bataillon seulement, rejoint par les hommes de Flourens qui empruntent la route d'Asnières, gagne Rueil. Les Versaillais, surpris par cette sortie, n'entrent en ligne que fort tard, vers 10 h. 10 000 hommes furent envoyés vers Bougival et des batteries montées sur le plateau de la Jonchère pilonnent Rueil. L'avant-garde parisienne fit résistance pour laisser à leurs camarades de Rueil le temps de battre en retraite. On commença vers 1 h sur Neuilly dont on fortifia la tête de pont. Quelques braves qui s'étaient obstinés dans Rueil eurent grand peine à regagner le pont d'Asnières, poursuivis par la cavalerie qui leur fit des prisonniers. Flourens fut surpris dans Rueil. Depuis le 18 mars, cet exubérant était devenu taciturne, comme s'il sentait les approches de l'ombre. Après la débandade, il refusa de rentrer, descendit de cheval et suivit tristement le rivage de la Seine. Là et découragé, Flourens se coucha sur la berge et s'endormit. Cipriani, un officier italien qui l'accompagnait, loue une chambre près du pont de Château pour se cacher des troupes versaillaises. Mais un éclaireur les dénonce et une quarantaine de gendarmes encerclent la maison. Cipriani est assommé et Flourens, reconnu à une dépêche trouvée sur lui, est conduit au bord de la Seine où il se tient, debout, tête nue et bras croisés. Un capitaine de gendarmerie, Desmarais, accourt à cheval et hurle. « C'est vous, Flourens ?»« Oui, » répond le général républicain. « C'est vous qui tirez sur mes gendarmes ?»« Non, » dit Flourens. « Menteur !» rugit l'officier. Et, se dressant sur les étriers, le capitaine lui fend le crâne d'un coup de sabre si furieux qu'il lui fit 2 épaulettes, dit un gendarme qui avait le mot jovial. Cipriani, encore vivant, fut jeté avec le mort dans un petit tombereau de fumier et roulé à Versailles, où les amis des officiers vinrent flairer le cadavre. Ainsi finit sa course, ce bon chevalier errant que la Révolution aima. La colonne du général Eudes, commandée par Ranvier et Avrial, ne parvient pas à déloger les Versaillais de Meudon, retranchés dans les villas et pourvus de mitrailleuses. Les fédérés se replient sur les moulineaux et Ranvier envoie chercher des canons qu'il installe dans le fort d'Issy. Cette position empêche les Versaillais de prendre l'offensive. Sur le flanc gauche, Duval et ses hommes résistent encore sur le plateau de Châtillon. On tiraille plusieurs heures. Quelques obus suffiraient à déloger l'ennemi, mais Duval n'a pas d'artillerie. Déjà, les cartouches manquent. Duval est assailli par la brigade Desrojas et la division Pelé qui compte 8 000 hommes. Comme Flourens, il ne peut accepter de rentrer. À l'inverse de Flourens, le taciturne Duval était devenu depuis le 18 mars abondant de verbes presque loquaces. Entouré seulement d'une poignée d'hommes toute la nuit, il ne cessa de répéter « Je ne reculerai pas ». Le 4, à 5 heures, le plateau et les villages voisins sont enveloppés par la brigade de Roja et la division Pelé. « Rendez-vous, vous aurez la vie sauve !» fait dire le général Pelé. Les fédérés se rendent. Aussitôt, les Versaillais saisissent les soldats qui combattaient dans les rangs fédérés et les fusillent. Les autres prisonniers, enfermés dans 2 haies de chasseurs, sont acheminés sur Versailles. Leurs officiers, tête nue, les galons arrachés, marchent en tête du convoi. Au petit Bicêtre, la colonne rencontre Vinoy. Il ordonne de fusiller les officiers. Le chef de l'escorte rappelle la promesse du général Pelé. Alors, Vinoy, y a-t-il un chef ? Moi, dit Duval, qui sort des rangs. Un autre s'avance. Je suis le chef de l'état-major de Duval. Un commandant des volontaires de Montrouge vient se mettre à côté d'eux. Vous êtes d'affreuses canailles, dit Vinoy, et se tournant vers ses officiers, qu'on les fusille ! Duval et ses camarades dédaignent de répondre, franchissent le fossé, viennent s'adosser contre un mur, se serrent la main, crient « Vive la commune !» et meurent pour elle. Un cavalier arrache les bottes de Duval et les promène comme un trophée. Un rédacteur du Figaro s'empara du faux col ensanglanté. L'armée de l'ordre reprenant l'horrible tradition de juin 48, massacrait les prisonniers. Rien n'est plus édifiant dans cette guerre que les porte-drapeaux des honnêtes gens. Leur bande, au grand complet, accourut dans l'avenue de Paris pour recevoir les prisonniers de Châtillon. L'émigration parisienne, fonctionnaire, bourgeoise, élégante, les chacals et les hyènes vinrent frapper les captifs des poings, des cannes, des ombrelles, arrachant képis et couvertures, criant « À l'assassin, à la guillotine !» Parmi les assassins marchait Élisée Reclus, pris avec Duval. Pour laisser aux fureurs le temps de s'assouvir, l'escorte fit plusieurs haltes avant de conduire les prisonniers à la caserne des gendarmes. Ils furent ensuite jetés dans des hangars de Satory et de là acheminés sur Brest dans des wagons à bestiaux.
Le chef du pouvoir exécutif à toutes les autorités civiles et militaires. Les opérations de la journée d'hier ont été terminées ce matin avec la plus grande vigueur.
Avril. Après 72 jours d'armistice, Paris reprend seul la lutte pour la France. Ce n'est plus uniquement le territoire qu'il dispute, mais les assises mêmes de la nation. Vainqueur, sa victoire ne sera pas stérile comme celle des champs de bataille. Vaincu, les libertés s'éteignent, la bourgeoisie arme de fer ses lanières, une génération glisse dans le tombeau. Pour la troisième fois depuis le 18 mars, la ville n'a qu'un souffle. De tous les quartiers, le même murmure d'exécration partait contre les assassinats des prisonniers, les scènes ignobles de Versailles. Le voyageur qui s'aventurait dans Paris, voyant ce calme, ses blessés criant « Vive la Commune !», ses bataillons enthousiastes. Là-bas, le Mont-Valérien crachant la mort. Ici, les hommes vivant en frères sentaient un frisson parcourir sa peau, ses yeux humides, et prenaient en quelques heures la maladie parisienne. Le 6 avril, la guillotine est solennellement brûlée devant la mairie du 11e. À l'Assemblée de la Commune, Delecluse dépose un projet adopté à l'unanimité qui prévoit que tout prévenu accusé de complicité avec Versailles serait jugé dans les 48 heures et, si coupable, reconnu comme otage. L'exécution par les Versaillais de gardes fédérés serait suivie de celle des otages, en nombre égal ou double. Thiers, qui fusillait sans décret, dénonça la férocité de la Commune. Tout ce monde au fond riait sous cap, car les réactionnaires de grande marque avaient fui depuis longtemps. Il ne restait à Paris que le menu fretin et quelques attardés que Versailles saurait sacrifier au besoin. La Commune, dans son indignation, ne voyait pas les vrais otages qui crevaient les yeux. La banque, L'enregistrement et les domaines, la caisse des dépôts et consignations. Par là, on tenait les glandes génitales de Versailles. On pouvait rire de son expérience, de ses canons. Sans exposer un homme, la commune n'avait qu'à lui dire « transige ou meurs ». Combien d'insurrections ont commencé par saisir le nerf de l'ennemi, la caisse. La commune est la seule qui ait refusé. La déroute du 3 abattit les timides, exalta les fervents. Des bataillons inertes jusque-là se levèrent. L'armement des forts ne traîna pas. Les fédérés réoccupèrent Courbevoie et le pont de Neuilly fut barricadé, protégé par le canon de la porte Maillot. La commune, pour faire à ses défenseurs des funérailles dignes d'eux, appela le peuple. Le 6, à 2 heures, une foule accourut à l'hospice Beaujon où les morts étaient exposés, visages découverts. Des mères, des épouses, tordues sur les cadavres, jetèrent des cris de fureur et des serments de vengeance. 3 catafalques contenant chacun 35 cercueils, enveloppés de voiles noires, pavoisés de drapeaux rouges, traînés par 8 chevaux, roulèrent lentement vers les grands boulevards, annoncés par les clairons et les vengeurs de Paris. Delescluze et 5 membres de la commune, l'écharpe rouge, tête nue, menaient le deuil. Derrière eux, les parents des victimes, les veuves d'aujourd'hui soutenues par celles de demain. Des milliers et des milliers, l'immortel à la boutonnière, silencieux, marchaient au pas des tambours voilés. Quelques musiques sourdes éclataient par intervalles comme l'explosion involontaire d'une douleur trop contenue. Sur les grands boulevards, ils étaient 200 000 et 100 000 faces pâles regardaient aux croisées. Des femmes sanglotaient, beaucoup défaillirent. Cette voix sacrée de la Révolution, lit de tant de douleurs et de tant de fêtes, a bien rarement vu pareil flamber de cœur. Delescluze s'écriait « Quel admirable peuple ! Diront-ils encore que nous sommes une poignée de factieux ?» Au Père Lachaise, il s'avança sur la fosse commune. Les cruelles épreuves de la prison de Vincennes avaient brisé son enveloppe si frêle. Ridé, voûté, affaume, maintenu seulement par sa foi indomptable, ce moribond salua ses morts. Je ne vous ferai pas de longs discours. Ils nous ont coûté trop cher. Justice pour les familles des victimes. Justice pour la grande ville qui, après 5 mois de siège, trahie par son gouvernement, tient encore dans ses mains l'avenir de l'humanité. Ne pleurons pas nos frères tombés héroïquement, mais jurons de continuer leur œuvre et de sauver la liberté, la commune, la République.
Dans tous les quartiers se multiplient les clubs et les réunions.
Club communal Nicolas Deschamps. L'avènement de la commune a rendu réellement tous leurs droits aux citoyens. C'est à eux qu'il appartient d'en user. Suivez notre exemple. Ouvrez des clubs communaux dans toutes les églises. Les prêtres pourront y officier dans le jour et vous, vous y ferez l'éducation politique du peuple le soir.
Citoyens, c'est avec l'aide des réunions publiques que nous avons été à même de reconnaître et de défendre nos droits. Nous demandons votre présence et votre concours afin que chaque citoyen sache positivement ce qui se passe, comment il marche et comment il doit marcher. Vive la République! Vive la commune!
Bergeret, qui avait répondu de Neuilly, est arrêté et remplacé par Dombrowski, un Polonais que Garibaldi avait réclamé pour son armée des Vosges. L'état-major galonné de Bergeret protesta et la garde nationale se montra initialement méfiante à l'égard du Polonais. Mais la commission exécutive insiste et Dombrowski est envoyé sur place. Le 7, les fédérés de Neuilly virent un homme jeune, de petite taille, à l'uniforme modeste, inspecter les avant-postes au pas sous la fusillade. Au lieu de la furia française, d'entrain et d'éclat, la bravoure froide et comme inconsciente du slave. En quelques heures, le nouveau chef eut conquis son monde. L'officier, se révéla bientôt.
Damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donnant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisant table rase, foule esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. César ni tribun, producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'internationale sera le genre. Le grand parti des travailleurs, la terre n'appartient qu'aux hommes, loisir à loger ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous.
L'inégalité le ronge, l'insolidarité le tue, des préjugés antisociaux l'étreignent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuisent dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité, sinon à ceux qui nous gouvernent? Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la Commune et pour la Liberté.
Place au peuple, place à la Commune.
Aux armes.
FPP 106.3. En 2021, la Commune de Paris a 150 ans. Fréquence Paris Pluriel fête cet anniversaire cette année avec plusieurs programmations spéciales. Vous venez d'écouter la deuxième émission qui retraçait La proclamation de la Commune avec les premières élections le 26 mars 1871 jusqu'au 6 avril, date de la nomination de Dombrowski au commandement de la 11e Légion de la Garde Nationale. Les récits de Louise Michel et Prosper-Olivier Lissagaray sont lus par Ariane Ascaride.